Dixième partie. Parchemin de l'âme. Chapitre 25. La première chose que j'ai entendue le lendemain matin, ce fut un cri, suivi d'un fracas. Cora, qui laissait tomber le plateau du petit-déjeuner. Cela m'a réveillée. J'étais toujours à mi-corps, dans l'armoire, la tête sur le manteau bouchonné. J'avais dû le tirer du cintre et m'endormir dessus. Pendant quelques instants, je ne pouvais pas me rappeler où j'étais. Cora était à genoux à côté de moi. Je sentais sa main me toucher le dos. Elle a poussé un autre cri quand j'ai remué. J'ai dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai roulé sur moi-même, me suis redressée. « Oh » a-t-elle fait. « J'ai pensé... » Elle a pensé quoi ? C'était comme... Les œufs s'étaient brisés par terre, il y avait du jus d'orange et des éclats de verre. Il faudra que j'en rapporte un autre. Quel gaspillage! Qu'est-ce que vous faisiez par terre comme ça? Elle me tirait pour me faire me lever. Me tenir debout comme il faut, sur mes pieds. Je ne voulais pas lui dire que je ne m'étais pas mise au lit du tout. Il n'y aurait pas moyen d'expliquer cela. Je lui ai dit que j'avais dû m'évanouir. Ce n'était guère mieux, car elle a sauté sur l'occasion. C'est un des premiers signes, a-t-elle dit, ravie. Ça et vomir. Elle aurait dû savoir que c'était beaucoup trop tôt, mais elle était pleine d'espoir. J'ai répondu, non, ce n'est pas ça. J'étais assise sur la chaise, je suis sûre que c'est pas ça. J'avais seulement la tête qui tourne. J'étais juste là et tout est devenu noir. Ça doit être la fatigue, a-t-elle dit. Hier et tout ça, ça vous vide. Elle pensait à la naissance, et j'ai acquiescé. J'étais maintenant assise sur la chaise, et elle à genoux par terre, à ramasser les morceaux de verre brisé et d'œufs, à les rassembler sur le plateau. Elle a épongé une partie du jus d'orange avec la serviette en papier. Il va falloir que j'apporte un chiffon. Ils voudront savoir pourquoi encore des œufs. À moins que vous ne puissiez vous en passer. Elle a levé les yeux vers moi de biais d'un air matois, et j'ai vu qu'il vaudrait mieux que nous puissions faire semblant l'une et l'autre que j'avais bien pris mon petit déjeuner. Si elle disait qu'elle m'avait trouvé étendue par terre, il y aurait trop de questions. Il lui faudrait de toute façon expliquer ce verre cassé. Mais cela mettrait Rita de mauvaise humeur de devoir préparer un deuxième petit déjeuner. Je m'en passerai, je n'ai pas tellement faim. C'était une bonne réponse. Ça allait avec le vertige. Mais je mangerais volontiers le pain grillé. Je ne voulais pas être entièrement privée de petit déjeuner. Mais il a été par terre. Ça m'est égal. Je me suis mise à manger la tranche de pain grillé, tandis qu'elle allait à la salle de bain et faisait disparaître dans les WC la poignée d'œufs qui ne pouvait être récupérée. Puis elle est revenue. « Je dirais que j'ai laissé tomber le plateau en sortant », a-t-elle proposé. Cela m'a fait plaisir de l'avoir prête à mentir pour moi, même à propos d'une chose aussi minime, même dans son propre intérêt. Cela créa un lien entre nous. Je lui ai souri. J'ai dit « J'espère que personne ne vous a entendu. » Ça m'a fait un choc, a-t-elle dit, debout sur le seuil de la porte, le plateau entre les mains. D'abord, j'ai cru que c'était juste vos vêtements, comme qui dirait. Puis je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font là par terre? J'ai pensé que peut-être vous étiez... sauvés. Eh bien, mais c'était bien vous. J'ai dit, oui, en effet. Et c'était bien moi. Et elle est sortie avec le plateau, puis elle est revenue avec une serpillière pour le reste du jus d'orange. Et Rita, cet après-midi-là, a fait une observation revêche à propos de gens à qui tout tombe des mains. « Trop de choses dans la tête. Ils ne regardent pas où ils mettent les pieds », a-t-elle grogné. Et à partir de là, nous avons continué comme si rien ne s'était passé. C'était en mai. Le printemps est maintenant dépassé. Les tulipes ont eu leur heure de gloire. et se meurt. Elles laissent tomber leurs pétales un à un, comme des dents. Un jour, je suis tombée sur Serena Joy agenouillée sur un coussin dans le jardin, sa canne posée dans l'herbe à côté d'elle. Elle était occupée à couper les gousses de graines avec un sécateur. Je l'ai observée à la dérobée, en passant avec mon panier d'oranges et de côtelettes d'agneau. Elle visait, positionnait les lames du sécateur, puis tranchait d'une secousse convulsive de ses mains. Était-ce l'arthrite qui la gagnait? Ou quelque guerre éclair, un kamikaze, lancé contre les organes génitaux tumescents des fleurs, le corps fructifère. Couper les gousses de graines est censé amener le bulbe à emmagasiner de l'énergie. Sainte Serena, à genoux, faisant pénitence. Je me divertis souvent ainsi, par de petites plaisanteries méchantes et amères à son égard, mais pas longtemps. Cela ne se fait pas de s'attarder à observer Serena Joy par derrière. Ce que je convoitais, c'était le sécateur. Bon. Puis nous avons eu les iris, dressés, superbes et dignes sur leurs hautes tiges, comme du verre soufflé, comme de l'eau pastel, momentanément gelée en éclaboussures de couleurs, bleu pâle, mauve pâle, et les plus sombres, velours et pourpre. Oreilles de chat noir au soleil, ombre indigo. Et les cœurs de Jeannette, de forme si féminine, que c'est surprenant qu'on ne les ait pas arrachés depuis longtemps. Il y a quelque chose de subversif qui se dégage du jardin de Serena. L'impression que des choses enterrées remontent et éclatent sans parole à la lumière, comme pour montrer du doigt et dire « Tout ce qui est réduit au silence clamera pour être entendu, même en silence. » Un jardin à la Tennyson, lourde senteur, languide, le retour du mot « pamoison ». La lumière du soleil se répand sur lui, certes, mais la chaleur monte aussi des fleurs elles-mêmes, on la sent. C'est comme si l'on tenait la main à 2 centimètres au-dessus d'un bras, d'une épaule. Le jardin respire dans la chaleur, hume ses propres effluves. Le traverser ces jours-ci, à l'époque des pivoines, des mignardises et des œillets, me fait tourner la tête. Le saule a revêtu son plus beau plumage. Et n'aide guère, avec ses murmures insinuants. « Rendez-vous, » dit-il, « terrasse. » Les sifflantes me remontent l'échine comme un frisson de fièvre. La robe d'été bruisse contre la chair de mes cuisses. L'herbe pousse sous mes pieds. Au coin de mes yeux, il y a des mouvements dans les branches. Plumes, volettements, trilles. Arbre devenant oiseau, métamorphose devenue délire. Les déesses peuvent exister, et l'air exsude le désir. Même les briques de la maison s'adoucissent, deviennent tactiles. Si je m'appuyais contre elles, elles seraient chaudes et élastiques. C'est surprenant ce que la frustration peut faire. Est-ce que la vue de ma cheville l'a fait défaillir, hier, au poste de contrôle ? Quand j'ai fait tomber mon laissez-passer et que j'ai attendu qu'il me le ramasse. Pas de mouchoir, pas d'éventail, je me sers de ce que j'ai. L'hiver n'est pas aussi dangereux. J'ai besoin de dureté, de froid, de rigidité. Pas de cette lourdeur comme si j'étais un melon sur une tige, de cette maturité liquide. Le commandant et moi avons conclu un arrangement. Ce n'est pas le premier arrangement de ce genre dans l'histoire, même si la forme qu'il a prise n'est pas la forme habituelle. Je rends visite au commandant 2 ou 3 soirs par semaine, mais seulement quand je reçois le signal. Le signal, c'est Nick. S'il est à lustrer la voiture quand je pars pour les courses, ou à mon retour, et qu'il porte sa casquette de travers, ou pas de casquette, j'y vais. S'il n'est pas là, ou qu'il porte sa casquette d'aplomb, je reste dans ma chambre, comme d'habitude. Les soirs de cérémonie, bien sûr, rien de ceci ne s'applique. Le problème, c'est l'épouse, comme toujours. Après le dîner, elle se rend dans leur chambre à coucher, d'où il n'est pas impossible qu'elle m'entende lorsque je me faufile le long du couloir, même si je prends soin de ne faire aucun bruit. Ou elle reste au salon, à tricoter ses éternelles écharpes pour les anges. À produire de plus en plus de maîtres de bonshommes de laine, tarabiscotés et inutiles. Sa forme de procréation à elle, sans doute. La porte du salon reste en général entrebâillée quand elle y est, et je n'ose pas passer devant. Quand j'ai reçu le signal, mais ne peux faire le trajet, descendre l'escalier, longer le couloir et passer devant le salon, le commandant comprend. Il connaît ma situation, mieux que quiconque. Il connaît toutes les règles. Quelquefois, pourtant, Serena Joy est sortie, en visite auprès d'une autre épouse de commandant, souffrante. C'est le seul endroit où il est concevable qu'elle se rende, toute seule, le soir. Elle emporte de la nourriture, une tarte ou une miche de pain fabriquée par Rita, ou un pot de gelée confectionné avec les feuilles de menthe qui poussent dans son jardin. Elles sont souvent malades, ces épouses de commandant. Cela ajoute du sel à leur vie. Quant à nous, les servantes, et même les Martha, nous évitons la maladie. Les Martha ne veulent pas prendre leur retraite, car qui sait où elles iraient. On ne voit plus tellement de vieilles femmes par ici. Quant à nous, toute maladie réelle, tout ce qui traîne, affaiblit, une perte de poids ou d'appétit, la chute des cheveux, une défaillance des glandes, serait fatale. Je me rappelle Cora au début du printemps, qui était là, titubée malgré la grippe, à se cramponner au chambranle des portes quand elle pensait que personne ne la voyait, à faire attention de ne pas tousser. « Un petit rhume !» disait-elle, quand Serena lui posait la question. Serena elle-même s'accorde parfois quelques jours de congé au fond de son lit. Alors c'est elle qui reçoit les visites, les épouses qui froufroutent en montant l'escalier, caquetantes et joyeuses. C'est à elles qu'elles apportent les gâteaux et les tartes, la gelée, les bouquets de fleurs de leur jardin. Elles prennent des tours. Il existe une espèce de liste, invisible, non dite. Chacune prend soin de ne pas accaparer plus que sa part d'attention. Les soirs où Serena a prévu de sortir, je suis sûre d'être convoquée. La première fois, j'étais tout embrouillée. Ses besoins me paraissaient obscurs. Et ce que je pouvais en percevoir me semblait ridicule, risible, comme un fétichisme des bottines à lacets. En plus, j'avais éprouvé une sorte de déception. À quoi m'étais-je attendue derrière cette porte close, la première fois ? À quelque chose d'inqualifiable, à quatre pattes peut-être ? Perversion, fouet, mutilation ? À tout le moins à une manipulation sexuelle mineure, quelques peccadilles d'antan dont il serait maintenant privé, interdite par la loi et passible d'une amputation. Mais être invité à jouer au Scrabble, comme si nous étions un vieux ménage ou deux enfants, me semblait excentrique à l'extrême, et en même temps une forme de viol. En tant que requête, c'était opaque. C'est pourquoi, en quittant la pièce, je ne comprenais pas bien ce qu'il désirait, ni pourquoi, ni si je pouvais combler une partie de ce désir. Pour qu'il y ait négociation, les conditions de l'échange doivent être fixées. C'est une chose qu'il n'avait de toute évidence pas faite. Je pensais qu'il jouait, peut-être, un numéro de chat et de souris. Mais je crois maintenant que ses motivations et ses désirs n'étaient pas clairs, même pour lui. Il n'avait pas encore atteint le niveau des mots. La deuxième soirée a débuté de la même manière que la première. Je suis arrivée à la porte qui était fermée, j'ai frappé, j'ai été invitée à entrer. S'ensuivirent les mêmes deux parties avec les jetons beige et lisses. Prolix, quartz, quadruplex, sylph, rythme. Tous les vieux trucs avec consonnes que je pouvais imaginer ou me rappeler. Mes efforts pour épeler me donnaient l'impression d'avoir la langue épaisse. C'était comme utiliser un langage que j'avais su un jour, mais que j'avais presque oublié. un langage relatif à des coutumes qui avaient depuis longtemps disparu de ce monde. Café au lait, à une terrasse, avec une brioche, de l'absinthe dans un grand verre, ou des crevettes dans un cornet de papier. Des choses que j'avais lues autrefois, mais jamais vues. C'était comme essayer de marcher sans béquilles, comme ces scènes tocardes dans les vieux films de télé.
« Vous pouvez y arriver ! Je sais que vous le pouvez !»
C'est ainsi que mon esprit titubait et trébuchait parmi les R et les T pointus, glissait sur les voyelles ovoïdes comme sur des galets. Le commandant se montrait patient quand j'hésitais ou lui demandais l'orthographe exacte d'un mot. « Nous pouvons le chercher dans le dictionnaire, » disait-il. Il disait « nous ». La première fois, je m'en rendis compte. Il m'avait laissé gagner. Ce soir-là, je m'attendais à ce que tout soit identique, y compris le baiser d'adieu. Mais quand nous avons terminé la deuxième partie, il s'est calé dans son fauteuil. Il a posé les coudes sur les bras du fauteuil, les bouts des doigts joints, et m'a regardé. Il a dit « J'ai un petit cadeau pour vous. » Il souriait légèrement. Puis il a ouvert le tiroir supérieur de son bureau et en a tiré quelque chose. Il l'a tenu un instant, assez négligemment, entre le pouce et l'index, comme pour décider si oui ou non, il allait me le donner. Cela avait beau être à l'envers, de là où j'étais assise, je l'ai reconnu. C'était jadis assez courant. C'était une revue. Apparemment, une revue féminine, d'après l'illustration. Un mannequin sur papier glacé, cheveux bruns, cou entouré d'un foulard, lèvres maquillées. La mode d'automne. Je croyais que ces revues avaient toutes été détruites. Mais il en restait une, dans le bureau privé d'un commandant, là où l'on se serait attendu le moins à trouver ce genre d'objet. Il a posé les yeux sur le mannequin qui lui présentait le côté droit. Il continuait à sourire, de son sourire désenchanté. C'était le regard qu'on porterait sur un animal d'une race presque disparue, aux os. Les yeux rivés au magazine, qu'il balançait devant moi comme un hameçon, je le voulais. Je le voulais au point que j'en avais mal au bout des doigts. En même temps, je considérais cette envie de ma part comme futile et absurde, parce que j'avais fait fort peu de cas de ces revues, naguère. Je les lisais dans la salle d'attente du dentiste, quelquefois dans l'avion. Je les achetais et les emportais dans des chambres d'hôtel pour occuper le temps vide pendant lequel j'attendais Luc. Après les avoir feuilletées, je les jetais, car elles étaient jetables à l'infini. Et un jour ou deux plus tard, j'étais incapable de me rappeler ce qu'elles contenaient. Pourtant, je m'en souviens maintenant. Ce qu'elles contenaient était une promesse. Elle parlait de transformation. Elle suggérait une série infinie de possibilités qui se déployaient comme des reflets renvoyés par deux miroirs, placés face à face, et se prolongeaient, un double après l'autre, jusqu'au point de fuite. Elle suggérait une aventure après l'autre, une garde-robe après l'autre, une amélioration après l'autre, un homme après l'autre. Elle suggérait le rajeunissement, la souffrance vaincue et transcendée, l'amour éternel. La véritable promesse qu'elle contenait, c'était l'immortalité. Voilà ce qu'il tenait sans le savoir. Il a feuilleté les pages, je me suis sentie me pencher en avant. « C'est une vieille revue, » a-t-il dit, « une espèce d'objet rare. Des années 70, je pense. Un vogue. » Ceci comme un connaisseur de vin qui laisse tomber un nom. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être y jeter un coup d'œil. Je montrais peu d'empressement. Cela pouvait être une mise à l'épreuve, pour voir jusqu'à quel point j'avais été endoctrinée. J'ai dit « Ce n'est pas autorisé. » « Ici, ça l'est, » a-t-il dit calmement. Cela me paraît juste. Après avoir rompu le tabou principal, pourquoi hésiterais-je devant un autre interdit mineur ? Ou un autre, puis un autre encore. Qui pourrait dire où cela s'arrêterait? Derrière cette porte, les tabous étaient dissous. Je lui ai pris la revue des mains et les retournai dans le bon sens. Elles étaient de retour, les images de mon enfance. Hardie, marchant à grandes enjambées, confiante, les bras ouverts comme pour revendiquer l'espace, jambes écartées, pieds solidement plantés sur le sol. La pose évoquait un peu la Renaissance, mais c'est à des princes que je pensais, et non pas à des jeunes filles coiffées et bouclées. Ses yeux candides, ombrés de maquillage, certes, mais semblables à des yeux de chat, prêts à fondre sur une proie. Pas de défaillance, pas d'attachement chez elle, pas avec ses capes et ses tweeds bourrus, ses bottes qui montaient jusqu'aux genoux. Des pirates, ces femmes, avec leurs sacoches bon genre pour le butin. Et leurs dents chevalines, avides. Je sentais que le commandant m'observait, tandis que je tournais les pages. Je savais que je faisais quelque chose que je n'aurais pas dû faire, et qu'il prenait plaisir à me voir le faire. J'aurais dû me sentir mauvaise, selon les lumières de Tante Lydia. Je l'étais. Mais je ne me sentais pas mauvaise. Je me sentais plutôt comme une vieille carte postale édouardienne des bains de mer, coquine. Qu'allait-il me donner ensuite? Un corset? Pourquoi gardez-vous ça? Lui ai-je demandé. Certains d'entre nous, a-t-il répondu, conservent le goût des vieilles choses. Mais, ai-je dit, elles étaient censées avoir été brûlées. Il y avait des perquisitions dans toutes les maisons, des feux de joie. Ce qui est dangereux dans les mains des masses, observa-t-il, avec ce qui était peut-être ou peut-être pas de l'ironie, ne présente pas de risque pour ceux dont les mobiles sont, je terminais, au-dessus de tout reproche. Il a acquiescé de la tête, gravement. Impossible de savoir s'il parlait sérieusement ou pas. J'ai demandé, mais pourquoi me l'a montré? Puis je me suis sentie stupide. Que pouvait-il dire? Qu'il s'amusait à mes dépens? Car il devait savoir combien c'était douloureux pour moi de me voir rappeler le temps d'avant. Je n'étais pas préparée à ce qu'il a répondu. À qui d'autre pourrais-je la montrer? Et elle était revenue, cette tristesse. Je me suis dit, faudrait-il que j'insiste? Je ne voulais pas le pousser trop loin, trop vite. Je savais qu'il pouvait se passer de moi. Pourtant, j'ai dit « Et à votre épouse ?» Il parut réfléchir. « Non, » dit-il, « elle ne comprendrait pas. De toute façon, elle ne me parle plus guère. Il ne semble pas que nous ayons grand-chose en commun, à présent. » Donc voilà ce que c'était. Le mot était dit. Sa femme ne le comprenait pas. Voilà donc pourquoi j'étais là. La même vieille histoire. C'était trop banal pour être vrai. Le troisième soir, je lui ai demandé de la lotion pour les mains. Je ne voulais pas avoir l'air de mendier, mais je voulais obtenir ce que je pouvais. De la quoi? A-t-il fait, toujours aussi courtois? Nous étions séparés par le bureau. Il ne me touchait guère, hormis cet unique baiser obligatoire. Pas de pelotage, pas de respiration haletante, rien de cela. Cela aurait été déplacé, pour ainsi dire, à ses yeux comme aux miens. De la lotion pour les mains, ou pour le visage. Notre peau devient très sèche. Pour une raison ou une autre, j'ai dit notre au lieu de ma. J'aurais voulu aussi demander de l'huile de bain. Dans ces petits globules colorés qu'on pouvait acheter avant. Ils me faisaient tellement penser à quelque chose de magique quand ils étaient là. Dans une coupe ronde, en verre, dans la salle de bain de ma mère, chez nous. Mais je me suis dit qu'ils ne sauraient pas de quoi je parlais. De toute façon, on n'en fabriquait probablement plus. « Sèche ?» a repris le commandant. « Que faites-vous contre cela ?»« Nous nous servons de beurre. » quand nous pouvons en avoir, ou de margarine. Le plus souvent, c'est de la margarine. De beurre, a-t-il dit songeur. C'est très astucieux. Du beurre, il rit. Je l'aurais giflé.
Je pense que je pourrais vous en procurer, dit-il, comme cédant au désir d'un enfant pour du chewing-gum. Mais elle risque de sentir l'odeur sur vous.
Je me suis demandé si cette crainte lui venait d'une expérience passée. Passée depuis longtemps. Rouge à lèvres sur col, parfum sur les poignets de chemise, une scène, tard le soir, dans une cuisine ou une chambre à coucher.
Un homme dénué de ce genre d'expérience ne penserait pas à cela, à moins qu'il ne soit plus roublard qu'il n'en a l'air. J'ai dit « Je ferai attention. D'ailleurs, elle n'est jamais si près de moi que cela. »
« Quelquefois ?»« Si, » a-t-il dit. J'ai baissé les yeux. J'avais oublié cela. Je me suis sentie rougir. Je ne m'en servirai pas ces soirs-là.
Le quatrième soir, il m'a donné la lotion pour les mains dans un flacon de plastique sans étiquette. Elle n'était pas de très bonne qualité. Elle fleurait légèrement l'huile végétale. Pas de muguet sauvage pour moi. C'était peut-être ce qu'il produisait pour les hôpitaux, pour soigner les escarres. Mais je l'ai remercié quand même. Mais le problème, c'est que je n'ai nulle part où la garder.
« Dans votre chambre ? » a-t-il répondu, comme si c'était évident.
« On la trouverait. Quelqu'un la trouverait. Pourquoi » « Pourquoi ? » a-t-il demandé, comme s'il n'était vraiment pas au courant. Peut-être ne l'était-il pas. Ce n'était pas la première fois qu'il donnait des preuves d'être vraiment dans l'ignorance des véritables conditions dans lesquelles nous vivions.
Elle cherche. Elle fouille toutes nos chambres.
Que cherche-t-elle ?
Je crois qu'alors, j'ai perdu mon sang-froid. J'ai dit « Des lames de rasoir, des limes, des lettres, des produits de marché noir. Tous les trucs que nous ne sommes pas censés avoir.
Bon Dieu, vous devriez le savoir. »
Mon ton était plus irrité que je ne l'avais voulu. Mais il ne sourcilla même pas. Il a dit « Alors il vous faudra la laisser ici. »
C'est donc ce que j'ai fait. Il m'observait m'en enduire les mains, puis le visage, avec le même air de regarder à travers des barreaux. J'avais envie de lui tourner le dos. Comme s'il avait été dans les toilettes en même temps que moi, mais je n'osais pas.
Pour lui, il faut que je m'en souvienne. Je ne suis qu'un caprice.